Popcorn of the Dead. Une bonne tranche de cinéma avec des pépites de films à l'intérieur.
Le moment, et on est tous un petit peu nerveux. C'est naturel, mais il faut éviter les jugements à l'emporte-pièce.
Il signore, ma nella vita, che vi piace di più?
What's the thing you like most in life?
I like lots of things, but there are three things I like most.
Bonjour, ben c'est une nouvelle émission sur Radio Larzac. Je suis Laurent et...
Dorian, salut.
Salut à toi. Bon, ben donc aujourd'hui, pour cette émission, on va décrypter un peu un film, un auteur, un genre. On va tirer le fil de tout ça et puis on verra un peu où ça nous mène. Et puis, ben, pour aujourd'hui, ben, on va attaquer fort. Hein.
On va attaquer avec du grain classique.
Oui, grain classique. Un film de SF avec des monstres insectoïdes, un truc qui fait bien peur, avec des jeunes gens qui sont beaux comme des dieux, du courage, de la ténacité, de la romance, des gros guns qui crachent du plomb, ah ben ouais, il faut quand même ce qu'il faut, des membres qui volent carrément partout, des grandes giclées de sang, enfin de quoi faire quand même un bon marché de Montredon,
je crois.
Et oui, parce qu'il y a quand même de la tripaille.
Ah, il y a de la viande, il y a de la viande à griller.
Il y en a, il y en a. Et un film qui est quand même vraiment bourrin à première vue, mais ça mérite quand même d'aller un peu plus loin.
Young people from all over the globe are joining up to fight for the future.
I'm doing my part.
I'm doing my part.
I'm doing my part.
I'm doing my part too.
They're doing their part. Are you? Join the mobile infantry and save the world. Service guarantees citizenship.
Je sais pas si vous avez reconnu, mais aujourd'hui, on va parler du film Starship Troopers, grand classique, film de Paul Verhoeven. Donc, bon, si vous connaissez pas, Laurent, vas-y, fais-nous un petit synopsis.
Alors, un synopsis officiel.
Officiel.
Attention,
officiel.
Parce que là, on reste très sérieux, là, pour l'instant. Alors, on est au 24e siècle. L'ordre règne sur Terre grâce à une fédération mondiale. Mais aux confins de la galaxie, du côté de Klendatu. Klendatu, c'est loin. Hein.
Ça a l'air très loin.
Ouais. Ça a l'air très loin. Et il y a une civilisation, la civilisation des arachnides, qui se dresse contre l'espèce humaine. Et donc là, nous avons nos héros, Johnny, Dizzy, Carmen, Xander, Carl, cinq jeunes gens qui sont à peine sortis du lycée et qui s'engagent et partent dans l'espace pour combattre les insectes.
Voulez-vous en savoir plus ?
Eh oui, alors le film, comment il commence ? Tu te rappelles un peu ?
Ouais, alors ben bon, je l'ai revu récemment, mais c'est vrai que je ne l'avais pas revu à l'époque, mais le film commence avec des séquences d'action, opposant des soldats aux insectes. Et en fait, il y a un flashback qui va revenir un peu plus tard, quoi.
Exactement. Et oui, on est à travers la caméra d'un reporter qui filme donc une séquence d'action, de guerre contre les insectes. Et alors très vite, ça part en couille. Hein. Ça vire au gore, les insectes géants attrapent nos soldats, les découpent en morceaux. Enfin bon, tout se passe très très mal. Et on coupe et on revient donc une année avant pour présenter nos protagonistes.
Donc ouais, alors présentation des gars. Ben ouais, ben t'as Johnny et Dizzy qui seront plutôt dans l'infanterie. La piétaille. Là où on se fait bien massacrer, étriper et démembrer par les insectes. Et Carmen et Xander se retrouvent à conduire des vaisseaux spatiaux. Donc ça ne sera pas du tout le même délire, c'est la haute classe. Et Carl, lui, qui est beaucoup plus intelligent, va dans l'unité parapsychologique avec un joli uniforme qu'on parlera plus tard.
Oui, on évoquera un petit peu son uniforme. On évoquera aussi un peu tout ce qui suit, tout ce qui entoure Carl, parce que c'est vrai que là, Paul Verhoeven, il a été quand même assez loin. Alors en fait, pour tout dire, le film, il marche sur des séries de clichés.
Hein. Ah ben là, oui. C'est un film à clichés, c'est fait pour d'ailleurs.
Eh ben oui. Alors d'abord, on a déjà du cliché à l'eau de rose. C'est-à-dire, on a Dizzy qui est redingue de Johnny,
ouais.
qui lui-même est amoureux de Carmen,
et
qui,
oui.
elle, va le laisser tomber comme une vieille savate.
Oui, avec le beau gosse de l'équipe adverse de football américain de l'époque.
Et oui, Zander.
Le fameux Zander.
Et oui, parce qu'ils vont se retrouver à l'aéronaval.
Voilà. Et ils ont tous des visages de beau gosse américain, quoi.
Carrément.
C'est de la caricature. Ah ouais,
c'est
des grosses mâchoires, blondes.
Bon, il y a aussi Carl, aussi. Alors lui, on ne lui connaît pas d'histoire d'amour. Hein.
Ouais, mais oui, parce que forcément, c'est un intello. Carl ouais. qui est moins beau gosse que les autres.
Ça doit être le signe, oui.
Voilà, c'est les intellos, généralement, ils ont pas, dans les films américains, ils n'ont pas de meufs.
Et donc, a priori, on le mettrait dans la catégorie asexuelle. Voilà. Enfin, après, il va y avoir d'autres séries de clichés, mais qui sont vraiment propres au genre. Ce sera les clichés, par exemple, sur l'entraînement.
Alors, ah oui.
Là, l'entraînement, on a tout. Hein. On a vraiment la violence qui va bien avec. On a des scènes qui sont assez hardes. Hein,
ouais.
Un sergent qui tient tout d'une façon assez...
assez stricte.
Assez stricte.
Beaucoup de clins d'œil aussi.
Ah ben oui, ça, forcément. Ouais. Et on a même une scène qui est très gay-friendly avec Johnny Rico qui se fait fouetter.
Ah ouais, t'as trouvé ça gay-friendly.
Ah, c'est un peu gay-friendly.
Ouais, c'est gay-friendly, mais bien sûr, les bons.
BDSM
ouais, on voit ça au rectum dans l'irréversible. Quoi.
Voilà, bon, les clichés sur l'entraînement, ça c'est clair. Et puis évidemment, sur les combats. Les combats où on va avoir très vite des premiers morts. Et puis, on va suivre nos personnages qui vont enchaîner d'abord des défaites avant d'arriver à la victoire.
À la victoire, forcément.
Et que les Bleus deviennent des vétérans.
Très rapidement, soit dit en passant.
Oui, assez rapidement. Ouais,
du jour au lendemain, ils sont... à eux seuls, ils gagnent la guerre, quoi. C'est assez facile, quoi.
C'est ce qui semble. Mais peut-être qu'on peut, peut minorer un peu la chose.
D'accord.
Enfin, en tout cas, tout ça, ça suit un schéma assez classique du film de genre, du film de guerre, en tout cas. Mais il faudra voir ça d'un peu plus près.
Voulez-vous en savoir plus ?
Alors oui, Starship Troopers.
Pourquoi est-ce une anomalie cinématographique, Laurent, dis-le-moi.
Et
l'origine.
Oui, c'en est une totalement. D'abord, il faut revenir un peu quand même à l'origine, parce que c'est quand même un peu ça la base. Ça sort un peu d'un livre, qui est un livre de Robert Heinlein, qui a été paru dans les années 50, 59 en l'occurrence. Ça s'appelait « Étoile garde à vous ». Et alors là, Robert Heinlein nous a sorti un livre qui n'était pas de la pure SF progressiste.
Apparemment, non, ouais. Il n'était pas trop dans le second degré, en plus.
Je crois qu'il était très, très dans le premier degré. Alors, moi, je vais vous lire carrément la petite pastille Wikipédia.
Ah, tu lis Wikipédia ?
Je
fais partie de ces gens. Ok, non, mais intéressant. Vas-y, continue.
Alors, à travers le regard de Rico, Heinlein expose une analyse de la société, notamment au travers de la nécessité de la vertu civique, de l'utilisation des châtiments corporels, ainsi que de la pertinence de la peine capitale dans certains cas. Étoile garde à vous, également un plaidoyer sur la nécessité d'une force militaire forte et une critique du communisme. Donc, on voit que c'est quand même assez sympa.
Ouais.
C'est droit dans ses bottes. Enfin, oui.
Bon, après, il faut le remettre aussi toujours pareil dans le contexte 1959,
exactement,
guerre froide, tout ça. Quoi.
Voilà. Mais donc, en fait, ce livre va servir un peu de base pour le film. En fait... Pour dire les choses, le livre a été... les droits ont été achetés par la production. Et ça a un petit peu servi, en fait.
Eh oui.
Crime et châtiment. Un assassin capturé ce matin vient d'être jugé.
Coupable.
Sentence, la mort. Exécution ce soir à 18h, toute chaîne, tout réseau. Voulez-vous en savoir plus ?
Et ouais, parce que Edouard Némeyer, il présente le livre à Verhoeven qui le trouve, mais alors, totalement nul. Il ne le supporte pas, quoi.
Alors, moi, je ne l'ai pas lu, le livre,
ouais.
Mais je suppose qu'il ne doit pas être terrible. Par contre, en fait, au début, il trouve ça très, très nul, mais il va trouver quand même qu'il y a quelque chose à faire avec ça.
Ouais.
Et les deux, le scénariste et le réalisateur, vont pondre quand même quelque chose qui est assez particulier, qui est un film à connotation satirique, un vrai film subversif, et ils vont le lancer dans la production. Alors là, la production, c'est là où le miracle
se joue. C'est le nerf de la guerre.
Et oui. Là, le miracle se joue. Parce qu'en fait, la production va lancer le film, avec un budget quand même assez conséquent.
Pour l'époque qui était de
105 millions de dollars.
Voilà.
C'est quand même pas nul.
Non.
Il y avait quand même de quoi faire.
C'est pas dégueu, mais rappelons qu'à l'époque, il est sorti en même temps que Titanic, qui était à combien, tu te souviens du...
Alors là, je pourrais pas vous le dire.
C'est Titanic, ouais, on le trouvera.
On cherchera, oui. Mais bon, voilà, en fait, 105 millions de dollars, normalement, on fait pas n'importe quoi avec ça. Et il se trouve que le petit miracle, c'est qu'à ce moment-là, les productions étaient en plein remaniement.
Ouais.
Et donc, le script passait un peu de main en main, mais je suis pas sûr qu'ils l'aient vraiment lu. Ils ont lancé le truc, et ils savaient peut-être pas exactement à quoi ils s'attendaient.
Mais ils ont eu confiance, en fait.
Ah ben, Paul Verhoeven, il avait quand même fait ses preuves. Hein,
parce voilà.
Vraiment, il avait fait quand même quelques cartons avant.
On peut parler un petit peu de Paul Verhoeven ou pas?
On en parlera tout à l'heure.
Oh, ok, d'accord. C'est un peu de suspense.
Mais en tout cas, oui, c'est un petit miracle que ce film ait été produit avec un contenu aussi subversif. Et alors, côté casting, ben, en fait, pour un film aussi cher, on a des personnes qui, à l'époque, sont totalement inconnues.
Ah, c'est vraiment un coup de poker, hein, ce film. C'est fou.
Et oui, parce qu'en fait, normalement, on a prévu... Enfin, la production a proposé des gens comme Matt Damon ou des gens comme ça qui sont...
Truc bankable, très... quoi.
Voilà, qui étaient bankable. Et qu'est-ce qui sort, Paul Verhoeven? Eh ben, il sort Casper Van Dien. Tu connaissais Casper Van Dien?
Pas du tout.
Eh ben moi non plus. Et d'ailleurs, il fera quasiment que ça.
Hein. Ouais. Ça voilà. Se comprend, hein, tant que tu vois le film.
Voilà, il y avait Dina Meyer, Denise Richards.
Ouais, là oui.
Par contre, ouais, je là, ok. Bon,
Denise Richards, bien sûr.
Tout le monde se souvient du premier plan de Denise Richards.
Ah oui, je ne sais plus d'ailleurs où je l'avais connu. Ben, je pense que c'était là d'ailleurs.
C'était là,
fois,
c'était là. Mais bon...
On s'en rappelle quoi.
On s'en rappelle. Généralement, cette espèce de sourire absolument éclatant.
Ouais.
Bon, voilà, ça laisse pas insensible, c'est vrai. Et puis Jack Buzzet, Neil Patrick Harris. Alors lui, il a fait plutôt une belle carrière.
Ouais, tu parles du mentaliste.
Ouais.
Ben, d'ailleurs, qu'il avait fait How I Met Your Mother ou Big Bang Theory, non? C'était un des deux.
Non, c'est How I Met Your Mother. Voilà. Et lui, c'est un peu le seul d'ailleurs qui a eu une carrière assez correcte. Parce que alors pour les autres, c'était pas terrible.
Jack Buzzet, non?
Ah si, on les retrouve quand même par-ci par-là dans certains films. Mais bon, en gros, surtout Casper Van Dien, qui est quand même le rôle principal, eh ben, il a fait vraiment que ça.
Ouais.
Voilà.
Mais alors, bon, il avait quand même. Il a quand même respecté sa logique, Paul Verhoeven, en voulant garder des acteurs de série B pour faire un film de série B, en fait.
Ah oui, c'est sûr. C'est-à-dire que lui, il voulait vraiment des acteurs qui sortaient de sitcom, des stéréotypes vivants, en fait. Et c'est vrai qu'ils sont vraiment, c'est vraiment ça. Et alors, pour Casper Van Dien, pour aller un peu plus loin, parce qu'il a une tête vraiment très particulière, une espèce de mâchoire carrée.
Ah ouais.
Voilà. En fait, Paul Verhoeven s'est inspiré de films de Leni Riefenstahl, qui est un peu la réalisatrice des films nazis, en fait.
Intéressant.
Et oui. Et il a cherché un profil bien arien, qui en imposait. Et bon, ben voilà, ça, c'est ce qu'il a choisi et c'est assez remarquable pour ça.
Oui. Il y a d'autres aussi, d'autres références aux nazis après dans le film.
Oui. Alors sinon, quand même, pour continuer sur la production, au niveau des effets spéciaux, ben, on avait quand même des pointures. Hein. Il y avait Phil Tippett, qui était quand même un très 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 bon.
Mm-hmm.
Parce que lui, il avait travaillé sur Star Wars, L'Empire Contre-Attaque, sur Jurassic Park, sur Robocop, donc c'est là où il s'était connu, Paul Verhoeven et Phil Tippett.
Ouais.
Et voilà, et il va en fait faire un mélange d'animatronics et d'effets numériques, qui est assez habile.
C'était impressionnant à l'époque, moi je me rappelle, ça m'avait choqué. Mais j'ai l'impression que de toute façon, cette période 97-98, tout ça, là, ça vraiment, il y a eu un gros gap en termes d'effets spéciaux.
Ouais, carrément.
Je me rappelle, Cinquième élément, tout ça, c'était à peu près les mêmes périodes.
Ouais, en fait, c'est vrai que c'est un film qui est encore regardable maintenant.
Ah ouais.
Parce qu'il y en a plein qui utilisent les effets numériques un tout petit peu avant, où c'est vraiment irregardable.
Ah ouais, c'est moins chaud.
Et là, non, ça fonctionne encore. Donc, bon, c'est vraiment à noter. Et puis, alors, pour ce qui est de la musique, bah, là aussi, c'était quelqu'un qui avait vraiment de la bouteille, Basil Poledouris.
Ça va être un grec.
Je suppose. Et alors, à son actif, on a Conan le Barbare, Conan le Destructeur, Robocop 3, enfin, La Poursuite d'Octobre Rouge. Donc, ouais. Ça va. Pour ce qui était des films d'action bien bourrins,
il avait
déjà bien donné.
Je me rappelle que la BO de Conan le Barbare m'avait marqué à l'époque.
Ah,
c'était
oui.
assez impressionnant. Avec des grosses musiques épiques, là, des voix, là. C'était assez impressionnant, Conan le Barbare.
Il m'avait choqué, ça m'étonne pas.
Bugs in my room, bugs in my bed, bugs in my ears, there are eggs in my head, bugs in my pockets, bugs in my shoes, bugs in the way I feel about you. Bugs on my window, trying to get in. They don't go nowhere. Waiting, waiting. Bugs on my ceiling, crowded the floor. Standing, sitting, kneeling. A few block the door. And now the questions. Do I kill them? Become their friend? Do I eat them? Raw, well done. Do I trick them? I don't think they're dumb. Do I join them? Looks like that's the one. I got bugs on my skin, tickle my nausea. I let it happen again. They're always taking over. I see this around me, I see them deciding my fate.
Voilà, alors c'était Bugs de Pearl Jam. Bon, alors Pearl Jam, je pense qu'ils ont eu des petits soucis pour accorder leur accordéon et donc ils sont repassés à la guitare électrique après.
Ouais.
Il valait peut-être mieux, non ?
C'est bien.
Bon, alors pour nos auditeurs qui seraient moins anglophones, il faut quand même que je précise un peu le choix de la musique. Hein. Ça a un rapport un peu avec ce qu'on raconte. Hein. C'est-à-dire que le chanteur nous dit « I have bugs in my head, bugs in my ceiling, bugs in my bed ». Ça veut dire j'ai des bestioles partout, quoi.
Ouais.
Des insectes qui courent partout. Voilà. Alors c'est peut-être un peu en relation...
C'est pas les mêmes insectes, mais bon.
Non, c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes.
Dans des milliards d'années, on sait pas. Peut-être qu'ils ont évolué. Bon, eh ben, on va retourner à ce Starship Troopers, et là, on va plus parler peut-être de la mise en scène, de la forme, tout ça, du film. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça, là ?
Ouais, ben, en fait, ce qui est assez remarquable, c'est que Verhoeven, il est très habile pour utiliser tous les codes.
Ouais.
Alors là, il y a tout, hein. Il y a la guerre, la romance, le western, parce que là, on peut penser sur une des scènes du film, à Alamo.
Oui, à la scène du fort, ouais, ben oui.
Ouais, et ben oui, c'est forcément vraiment ça, ouais. Mais à chaque fois, en fait, il y a du sous-texte. Et c'est là où c'est assez balèze. C'est que, en fait, on peut lire toujours le film en second degré. Bon, après, quand même, pour dire les choses, sa mise en scène reste très classique. Elle est très, très efficace.
Oui.
Il y a des bons mouvements de caméra qui suivent bien les personnages. Il y a des enchaînements de séquences qui sont très bons. Il n'y a vraiment aucun souci là-dessus. Mais on n'aura peut-être pas des plans absolument magnifiques qui vont rester en l'air. Ça reste un réalisateur de l'efficacité.
Voilà, c'est un film d'action avant tout.
Ouais, complètement. Ouais. Alors moi, je le mettrais un petit peu... un peu comme James Cameron, en fait, c'est-à-dire ces personnes qui savent vraiment où mettre la caméra, comment filmer l'action et tout. Et après, il y a un montage qui est quand même très, très bon. Et voilà. Mais ce qui est quand même le plaisir, disons, du film, c'est tout le sous-texte, hein, de toute façon. Parce que là, quand même, on peut un peu évoquer l'univers qu'il nous présente. Ça semble être un univers absolument parfait.
Selon le point de vue.
Voilà. C'est-à-dire qu'effectivement, là, on a un seul gouvernement qui est mondial, alors qui est vraiment mondial. Hein, parce que là, il n'y a qu'une seule civilisation. Et le symbole de la Fédération, d'ailleurs, c'est un aigle. Voilà, l'aigle, donc, de la Fédération a étendu sa domination sur toute la planète. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nos personnages vivent à Buenos Aires.
Ouais, ce qui est plutôt rare, quand même, en général, dans les films, ils sont aux États-Unis, à New York, Los Angeles.
Mais là, Buenos Aires, c'est comme si c'était Los Angeles.
Ouais, c'est la banlieue.
Donc, voilà. Et alors, avec la Fédération, il n'y a plus de frontières, tout le monde est mis sur le même plan. C'est l'égalité, homme-femme, homme de couleur, femme de couleur, tout est pareil.
Ouais.
C'est une vraie égalité, mais est-ce que c'est vraiment une vraie égalité ? On peut se demander.
Il y a un prix à payer derrière ça.
Oui. Bon, d'abord, toujours. C'est une égalité un peu soldatesque, hein, faut dire quand même ce qui est. Et puis, en plus, pour être citoyen dans ce monde-là, il faut passer par l'engagement dans les forces armées et partir combattre.
Médecin !
Bon, en fait, on a tous un truc en commun. On est tous assez débiles pour s'engager dans l'infanterie mobile. Breckenridge, c'est quoi ton excuse ?
Oh, de ma famille, on est tous fermiers. Et moi, la ferme, j'aime pas. L'infanterie mobile, c'est une vraie partie de plaisir à côté.
Ah ouais, vous êtes tous des bêtes de somme sur la planète fermière, alors.
Hey, les filles !
Bêtes de somme, j'adore ! Ouais.
Diana, t'as la parole.
Ah, je veux faire de la politique et ce qui est clair, c'est qu'il faut être citoyen pour ça. Alors me voilà.
Ah, alors tu veux des responsabilités ?
Oui.
Tsujumi, on continue, à toi.
J'ai été accepté à Harvard, mais mon père m'a dit « Laisse tomber, ça coûte les yeux de la tête. » Alors que si je fais mon service, c'est la fédération qui paie pour moi.
Moi, je voudrais un bébé. On obtient le permis plus vite quand on fait son service. Alors ?
Je veux faire carrière et devenir officier. Et je me battrai.
Ah, un futur Sky Marshal. À toi, Rico, raconte.
Quelqu'un t'a demandé de fouiner ?
Quoi ? C'est vraiment pas méchant. Je veux devenir écrivain et tous les écrivains ont le droit de fouiner.
Ouais.
Flores, tu connaissais Rico à Buenos Aires. Pourquoi il s'est engagé ?
Oh. À cause d'une fille, je crois. Oh, Rico !
Rico ! Le Roméo des familles ! Casanova !
Bon, Dorian, je ne sais pas si tu connais un peu la petite anecdote concernant la scène de la douche.
Non, dis-moi ça, rien de savoir cette petite anecdote, qui est quand même assez folle. Moi, je me rappelle, ça m'avait un petit peu choqué à l'époque de cette scène, cette fameuse scène de la douche.
Oui, où tout le monde est mélangé.
Tout le monde est mélangé, garçon-fille, voilà. Ça se passe tranquillement. En fait, d'ailleurs, on voit les sexes et tout, ça se passe bien.
Ouais. En fait, l'actrice qui joue Dizzy, elle voulait pas trop être à poil.
D'accord.
Et en fait, pour la convaincre, toute l'équipe s'est mise à poil. C'est-à-dire le chef opérateur, Paul Verhoeven et tout ça.
Ah ouais, carrément.
Voilà,
ouais.
Ça c'est l'anecdote. Hein.
Ah, sympa. Et elle s'est foutue à poil. La Dizzy, c'était la rouquine.
Ouais. Exactement, ouais. Voilà, en fait, bon, ça c'est une petite anecdote, mais...
Mais c'est vrai que c'est pas évident, hein, parce que ça... Je crois que j'ai rarement vu un film où il y a des femmes et des hommes à poil, où on voit tout dans une scène de douche, non ? Ça te parle ?
Complètement. Effectivement, là, c'est un peu unique. Et c'est super intéressant, parce qu'en fait, c'est une scène qui a l'air de rien, qui d'ailleurs parle, pareil, d'histoire amoureuse, en fait, mais qui laisse passer des informations sur l'univers, puisqu'on comprend bien qu'il y a un personnage, s'il veut être citoyen,
il est obligé d'aller à l'armée.
Voilà, il y a une fille, par exemple, elle va devoir passer par là pour avoir un enfant, ou alors pour faire de la politique, ce genre de choses. Donc voilà, en fait, c'est des petites informations qui passent, comme ça, l'air de rien, sur une scène qui a l'air un peu anodine, un peu anecdotique, mais c'est important. Et voilà, en fait, globalement, on peut quand même tous se laisser happer par le récit, parce que les acteurs, ils sont jeunes, ils sont beaux, enfin, bah, ils sortent tous de sitcom, hein, donc c'est normal. Alors, c'est vraiment facile de s'identifier à leurs aventures, hein, même si c'est des bleuettes sentimentales, c'est quand même assez facile. Et puis, voilà, en fait, le film va vraiment mettre en avant leurs petites histoires d'amour, les aventures guerrières, leur courage, leur volonté pour combattre et tout. Enfin, tout ce qui caractérise, en gros, tous les films de ce type-là. Et puis, à côté de ces jeunes gens qui sont tout juste sortis du lycée, on voit quand même quelques adultes qui sont au début du film, notamment. Et bien, ces adultes qu'on aperçoit...
Ils sont pas très en forme, quoi, en général.
Ils sont tous cabossés. Hein. On voit bien que, quand même, les adultes, ils sont passés par la guerre, et qu'on devine un peu interminable. Alors, le premier prof, par exemple, il lui manque un bras. La deuxième, elle est défigurée. Le troisième, qui est un agent recruteur, il lui manque les jambes. Enfin voilà, donc c'est très, très agréable comme ça, comme vision. Et les seuls adultes qui semblent un peu normaux et qui contestent un peu le système, eh bien, c'est les parents de Johnny.
Ouais.
Et voilà, eux, c'est vraiment des vilains pacifistes et tout ça. On se demande s'ils sont vraiment citoyens d'ailleurs. Et
Parce qu'on sait, c'est qu'ils ont des sous.
Ils ont des sous.
Parce qu'ils ont une belle baraque.
C'est vrai.
Donc apparemment, on peut être citoyen, mais avoir des sous. Ne pas être citoyen et avoir des... De quoi se payer une bonne baraque.
C'est vrai, ce qui semble être un peu une contradiction dans le film. Mais bon, bah enfin, de toute façon, eux, ils vont pas durer longtemps. Il y aura quand même un gros astéroïde qui va tomber sur leur figure, et voilà. Et ça sera bien, bien bouclé.
Bim, fini.
Voilà, donc c'est les seuls quand même à remettre un peu en question le système. Mais voilà, sinon pour tous les autres, non.
Ah, ils sont bien dedans, ouais.
Ah, ils sont à fond dedans. Voilà. Et face à eux, on a les insectes. Et les insectes, ils sont très bien faits.
Ouais, ouais. Et bien flippants.
Ouais, carrément terrifiants.
Machine de mort.
Ouais, ouais, parce que là, c'est fourbu de mandibules, de pattes et tout. Et
résistant. Très résistant, il en faut des bastos. Hein.
Et oui. Donc, a priori, on va évidemment pencher pour nos personnages humains. Assez naturellement, hein. Je veux dire, il y a vraiment aucun souci là-dessus.
Bah oui.
Et de ce côté-là, Verhoeven, il est assez malin. Et je dirais même un petit peu pervers. Parce qu'il utilise tous les codes du genre, en fait. C'est-à-dire les jeunes qui sont pris à la sortie du lycée, l'entraînement à la dure, les premiers combats, les jeunes bleus qui deviennent de véritables vétérans, enfin, tout ça. Et jusqu'à la victoire finale. Enfin, la victoire finale. Est-ce que c'est vraiment une victoire ?
C'est compliqué.
On peut se poser la question, parce qu'en fait, le résultat, il est très, très faible. On sent bien qu'il y a une petite victoire qui est là, sur les insectes, mais les batailles vont continuer à l'infini, quoi.
Oui et non, parce que ils ont quand même attrapé le cerveau.
Certes.
Est-ce que c'est le seul cerveau ? On ne sait pas.
Ouais, mais bon, on sent bien que c'est quand même vraiment pas fini au niveau de la guerre. Et... Bon, ça semble quand même très, 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 très limité comme victoire. Et puis, en plus, le film, c'est quand même un jeu de massacre. Hein. Là, de ce côté-là, carrément, tout le monde en prend pour son grade. C'est-à-dire que tous les seconds rôles qu'on aura pu voir, auxquels on aura pu même s'attacher, les personnages de la douche, par exemple, ils vont tous mourir d'une façon assez horrible.
Ah oui, il y en a même qui meurent pendant l'entraînement.
Oui.
Au cas où, quoi.
Oui.
Voilà.
Et là, de ce côté-là, Paul Verhoeven, il n'a aucune pitié, là. Il y va vraiment à fond. C'est-à-dire, c'est gore.
C'est gore, ouais. Notamment la mort du chef, du lieutenant, enfin, du sergent, je ne sais plus comment il s'appelle.
Oui, je ne sais plus, mais...
Où il s'est bouffé les jambes, gentiment, et « Laissez-moi partir !» qu'il dit « Ouais, laissez-moi !» Grand classique, quoi, partez
Ah, mais là, il va très loin, Paul Verhoeven, parce que là, pour le coup... Autant il y a plein de films de guerre qui ont un peu minoré cette chose-là, autant lui, il y va à fond. Hein. C'est-à-dire que vraiment, tous les personnages se font découper. Enfin, c'est très, très, très gore. Et c'est un peu en contradiction avec le côté un peu éthéré des personnages, un peu archétypal. Du coup, c'est une chose assez intéressante de jouer ce contraste-là, en fait.
Ouais. Et puis, les monstres en face sont assez moches, hein. que ce soit les insectes ou même les plus gros insectes, des grosses larves dégueulasses, qui quand ils explosent, ils en foutent partout. D'ailleurs, on voit bien que ça, il y a le bon bruit quand ça éclate sur les visages et tout.
Et pourtant, malgré toute cette tripaille répandue, on aura à aucun moment, mais vraiment à aucun moment, aucun personnage donc ne mettra en doute le système. Il n'y a aucune critique et tous les personnages vivent ça vraiment au premier degré, du début jusqu'à la fin, à part donc les parents de Rico, mais ça c'est vraiment une exception dans le film. Et voilà, et en fait...
Ouais, parce que eux, en fait, ils se battent pour leur civilisation. Pour eux, s'ils battent pas les insectes, ils vont mourir, quoi.
Alors, c'est ce que ça semble dire au début. Sauf que, en fait, au fur et à mesure du temps, on peut se poser un peu la question. Parce que, on a l'impression quand même que c'est les humains qui ont peut-être commencé la guerre et que c'est une guerre d'expansion impérialiste. Et je crois que c'est ce que veut faire passer Paul Verhoeven.
Eh oui.
Mais toujours d'une façon un petit peu...
tortueuse.
Ouais. Bon, et finalement, on peut se dire que c'est les insectes qui n'ont peut-être pas forcément attaqué les premiers, mais que c'est peut-être les humains.
Oui, et puis on ne sait pas, on a l'impression quand on voit le film au début que les insectes, c'est des bêtes sauvages, sans foi ni rien. Et à la fin... on sait qu'ils ont quand même des sentiments et on voit un petit peu la comment dire...
Ouais, en fait, Paul Verhoeven, non seulement il va très très loin dans l'utilisation d'un univers qui semble totalement autoritaire, mais les insectes, qui sont au début vraiment des créatures hyper terrifiantes, eh bien, il y a un moment où il va les humaniser légèrement.
Il y a de ça.
Il y a une petite scène, par exemple, qui est très caractéristique, et qui est vraiment pas par hasard. Il fait rien par hasard, Paul Verhoeven. Où t'as des soldats qui combattent un insecte. L'insecte tombe à terre. Et il y a un soldat qui va aller pour l'éliminer, l'achever totalement. Et il y a un plan sur son œil. Et on voit bien un œil qui semble un petit peu terrifié.
Ouais.
Et ça, c'est vraiment très caractéristique. C'est-à-dire que là, on voit que le personnage, il est là, l'insecte, il est là, il réfléchit, il a peur.
Il a peur.
Et c'est vraiment, vraiment très, très net sur cette espèce de progression de l'insecte qui devient plus...
L'insecte devient plus humain, tu voulais dire ?
Ben oui, quelque part, oui.
Parmi les ruines et les cendres de Buenos Aires, la douleur fait place à la colère.
Les seuls bons parasites, c'est les parasites morts.
À Genève, le Conseil fédéral s'est réuni.
Je vous demande de faire appel à votre vaillance et à votre sang. Certains vont même sacrifier leur vie pour faire en sorte que l'être humain et sa civilisation, pas l'insecte, soient le maître incontesté de cette galaxie et de tout l'univers.
Bien sûr. Parce que les seuls bons parasites sont les parasites morts. Ça te rappelle pas quelque chose, ça ?
Eh bien oui, c'est un petit peu le message qui est sous-tendu. Et en fait, c'est ce qui fait un peu la saveur du film. C'est en fait toutes ces petites pastilles d'infos sont égrenées tout au long du film. Et alors ça, c'est vraiment délicieux.
Ah ouais, moi c'est ce qui m'avait marqué le plus quand je l'avais regardé à l'époque. C'est vrai que... Mais honnêtement, à des moments, heureusement qu'ils y étaient, ces petites pastilles.
Ouais.
Parce que tu mets le film en entier sans les pastilles, à des moments tu te demandes premier ou second degré quand même.
Eh oui, non, je sais bien. Mais
c'est le fameux débat qu'il y a.
Oui, tout à fait, tout à fait. Bon, là, normalement, les pastilles ne laissent aucun doute sur l'ironie de ce que présente Verhoeven. Hein. Il n'y a vraiment aucun souci. Il n'y a vraiment pas d'ambiguïté sur ce que veut montrer le réalisateur. Et là, il égrène un petit peu des fausses informations. Au début, et trois fois dans le film, je crois, ou quatre fois, il montre l'embrigadement des esprits, la propagande pour les plus jeunes, une justice expéditive, parce qu'à un moment, il y a un condamné à mort qui doit être retransmis sur toutes les chaînes, et un pouvoir qui est totalement omnipotent. Et là, ces pseudo-infos, ça arrive vraiment en plein écran, et ça embarque le spectateur du film au même niveau que celui qui vit dans cet univers. Ça, c'est une chose qui est quand même assez forte parce que Du coup, ça pousse un peu à réfléchir sur justement ce qu'est l'info et ce genre de choses. C'est pour ça que c'est intéressant.
Ouais. Et d'ailleurs, on sent vraiment le totalitarisme quand on voit ce genre de propagande. Et ça nous amène à regarder un petit peu plus les uniformes qu'ils avaient.
Ah oui, bah ça, les uniformes, ça a été quand même un petit point qui a provoqué pas mal d'incompréhension sur pas mal de monde.
Ah bon?
Oui, parce qu'en fait, Karl, dont on parlait, qui est un peu le mentaliste,
ouais,
il a un uniforme qui est quand même très, très, très inspiré de la Wehrmacht.
Ah oui.
Là, je crois qu'il n'y a pas trop d'ambiguïté là-dessus.
Non. Il y a un bon SS. Et puis, il n'a pas que ça, parce que même ça dégaine, quoi, avec sa coiffure et tout, un blond. Il a la tête assez germanique.
Ouais, donc tout y est. Hein, tout y est. Ouais, donc ouais, là, vraiment, Paul Verhoeven enfonce le clou encore une fois. Et il va très très loin. Donc on peut dire quand même que Starship Troopers, pour ça, c'est vraiment une anomalie cinématographique, parce que d'aller aussi loin dans l'ironie, dans la subversion, dans le film corrosif quand même, c'était quand même un peu incroyable. Et ce film, en fait, il tend un peu un miroir à la société américaine, qui dénonce quand même une arrogance sans limite, une politique étrangère.
Un impérialisme, tout simplement. Hein.
Ouais, tout simplement. Et il joue avec tous les codes, tous les points de repère, mais pour mieux s'en moquer. Donc ça, c'est vraiment ce qui est absolument savoureux.
Mais c'est surtout une anomalie, en fait, parce que bon, après des films subversifs, il y en a eu plein, mais à ce niveau de budget, quoi. À ce niveau,
ouais,
de,
voilà,
de
exactement,
vision, parce que bon, il y a beaucoup de gens qui l'ont vu, même si ça n'a pas fait un tabac non plus à sa sortie.
Non, c'est vrai, et c'est bien dommage. Mais bon, ça a pris du galon quand même au fur et, ouais, à mesure du temps. Enfin, bon, en gros, c'est quand même, pour résumer, c'est quand même un grand film anti-militariste. C'est un vrai film anti-impérialiste, mais qui avance masqué. C'est-à-dire qu'on peut le voir comme ça, parce que c'est aussi un grand spectacle. Et voilà. Et il y a aussi ce point de comédie grinçante qui est quand même toujours un peu présent. Alors, ouais, jamais d'une façon très très nette, mais pareil, il travaille vraiment en sous-texte, Verhoeven.
Voilà.
Et là, il est très très bon pour ça. Enfin bon, en gros, il nous invite un peu à réfléchir sur les ressorts de la propagande, la manipulation des esprits. Et en fait, on peut sortir un peu un synopsis alternatif. C'est-à-dire que la Fédération Galactique souhaite s'étendre et éradiquer une lointaine civilisation insectoïde. Et elle envoie sa jeunesse au casse-pipe pour une guerre sans fin.
We have the ships. We have the weapons. We need soldiers. Soldiers like Lieutenant Stack Lumbridge.
We're in the target area now, Captain.
And Captain Carmen Abanin.
This is the captain speaking. All personnel prepared for
combat. Soldiers like Private Ace Levy and Lieutenant John Rico.
Come on, you ape! You want to live forever!
We need you all. Service guarantees citizenship.
Hey, toujours de la grosse musique. Et ouais, donc on disait que à sa sortie, ça n'a pas super bien marché. Et même la critique, ils se sont fait un petit peu défoncer.
Ah, ils se sont fait vraiment descendre. Alors je crois que c'est le New York Times ou le Washington Times qui a sorti une critique qui était super assassine, qui prétendait que le film était totalement fascistoïde.
Fascistoïde. C'est intéressant, c'est bon aussi.
Et alors, donc, ça donnait en fait le ton pour les autres critiques. Et il a été vu d'une façon très, très biaisée, en fait.
C'est ça qui est impressionnant, parce que bon, il a été fait quand même pour être vu au second degré à la base.
Mais complètement.
Et quand on voit que Télérama, les New York Times, fait, je veux dire, des grosses critiques et pas capté le second degré, ou alors je comprends pas.
Alors oui, c'est là où c'est un peu étonnant. C'est que c'est quand même des professionnels de l'image. Donc normalement, il n'y aurait pas dû y avoir d'ambiguïté. C'était vraiment très très clair, très très
après,
net.
Après, non, on va pas dire des conneries, c'est pas très très clair. Parce que moi, la première fois que je l'ai vu, bon, j'avais 14 ans, je l'ai vu au premier degré. Même si j'ai trouvé les petites pastilles et tout ça assez marrant. Mais là, quand je l'ai revu récemment, ok, je sais que c'était du second degré, mais c'est pas, je veux dire, un mec qui est un peu teubé, je pense qu'il peut le regarder au premier degré, quoi. Y a pas de souci.
Alors, en fait, il faut remettre ça en perspective. C'est-à-dire que là, au moins, je fais une critique, c'est que justement, ces gens qui lançaient des critiques de cinéma, c'est des professionnels de l'image. Ils sont capables de lire une image qui comporte du second degré.
Oui.
Par contre, effectivement, et alors là, c'est vrai qu'on peut faire une critique du film dans ce sens-là. C'est un film qui marche au premier degré.
Ouais, voilà.
Il marche très bien au premier degré.
Oui.
Et quelqu'un qui n'a pas beaucoup de background...
D'expérience cinématographique
et historique.
Et historique aussi.
Ouais. Ben, peut le regarder sans... jamais penser à mal, sans jamais voir, en fait, cette espèce de connotation un peu satirique. Et voilà, ça, c'est peut-être un peu la limite
c'est,
du film.
C'est plus joliment dit que ce que j'ai dit, c'est bien. Mais oui, c'est vrai, hein, moi, j'ai trouvé qu'il tirait un petit peu trop à des moments sur le côté sitcom, quoi. C'était trop, en fait, à des moments, mais c'était quand même subversif.
Ouais, ouais, ouais. Ben, y a d'autres films hein, qui ont été un peu dans ce sens-là. Je pense à Robocop qui vient aussi, qui est de Paul Verhoeven. Et c'était un peu pareil, c'est-à-dire film bien bourrin, qui peut se voir au premier degré, mais où il y avait aussi tout un sous-texte qui attaquait les empires commerciaux, ce genre de choses. Enfin, c'était quand même, ça allait assez loin. Mm-hmm. Il y a aussi Demolition Man,
très
pareil.
Bon.
Film très très bourrin.
Celui-là, je l'ai regardé au premier degré, je me souviens. Il était génial.
Voilà, alors avec Stallone et Wesley Snipes.
Snipes, ouais.
Et alors, comme ça, on se dit, mais quoi, sur Radio Larzac, on fait la promotion de Stallone et Wesley Snipes. Non, 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 il y a des choses intéressantes à aller chercher.
Avec la fameuse scène où des insultes pour se torcher, quand ils vont baisser.
Voilà. Non, non, c'est...
Les fameux trois coquillages. Le mystère des trois coquillages. Non, ça te parle pas, ça.
Ah, alors là, il faut que tu me rappelles un peu la chose.
Eh ben, c'est Stallone qui est dans le futur, qui va au WC, et il va au WC, et il ressort d'un coup, il comprend pas, il va voir, mais c'est quoi ces trois coquillages? Et là, tout le monde se regarde, et ils se foutent tous de sa gueule, ils disent, il sait pas se servir des trois coquillages. Et en fait, il y a une machine, quand tu dis des insultes, t'as une amende, et elle sort comme ça, des bouts de papier d'amende.
Ça, je vous rappelle.
Et donc voilà, il insulte la machine, il fait, c'est bon, j'ai mes papiers. Voilà, c'est un culte de Demolition Man.
Voilà, bon, ben oui, alors c'est un très bon exemple, parce que c'est l'utilisation dans un film bourrin de petits éléments qui sont assez jouissifs. Et voilà, bon, ça, c'était pas mal.
Et il y avait Idiocratie aussi, mais qui est, lui... C'est encore plus poussé, quoi. Idiocratie.
Oui, oui, oui. Alors, c'est Idiocratie.
Je sais même pas si on voit le premier degré. Là, c'est quand même bien second degré.
Ouais, là, c'est vraiment très, très second degré. Ouais. Là, c'est vrai que c'est moins un film qui n'est pas ce qu'il paraît. En fait, il est vraiment. Il joue vraiment sur. Sur le second degré. Sauf qu'il a atteint un statut de film culte. L'air de rien. Parce que, en fait, plein de gens ont pensé que c'était assez prémonitoire.
Ouais, ça fait peur, quoi.
Et on se demande si c'est pas le cas.
Pessoas na sala de jantar são ocupadas em nascer e morrer. Mandei fazer de puro aço luminoso um punhal para matar o meu amor e matei às 5 horas na Avenida Central. Mas as pessoas na de jantar são ocupadas em nascer e morrer. Mandei plantar folhas de sonho no jardim do solar. As folhas sabem procurar pelo sol e as raízes procurar. Mas as pessoas na sala de jantar. Em nascer e morrer.
Et c'était Panis et Circumstance de Os Mutantes. Alors là, c'est un morceau brésilien de 1969.
C'est quoi le rapport là, avec notre Starship Troopers?
Alors, aucun rapport.
Aucun rapport.
Voilà, ouais, je le dis carrément, j'assume hein, totalement.
T'as envie de passer ce morceau qui te
voilà,
qui
le
te
morceau plaisait. Est sympathique et voilà, c'est du pain et des jeux. Et on pourrait quand même trouver un petit peu de
rapport.
Ah
oui, parce qu'il y a le football, il y a... Ouais, c'est tout.
Voilà. Alors, pour revenir un petit peu à nos films, c'est vrai que là, on a évoqué un peu les films qui ne sont pas ce qu'ils paraissent. Mm-hmm. Enfin bon, il y a plein de films qui existent qui sont exactement ce qu'ils paraissent.
C'est-à-dire oui, les films. Il y en a même énormément.
Ah, énormément. Bon, là, on va vous en citer là comme ça, au débeauté.
Oui.
Genre Alamo, bon, ça c'est
Alamo,
clair.
Ça je connaissais pas, ça, par contre.
C'est un western,
ouais.
Mais bon, qui est très premier degré, très ouais. America First, ce genre de choses. Bon, moi, je mettrais quand même en haut de la pile Armageddon.
Bah, bien sûr.
Armageddon, voilà, inévitable.
Bruce Willis.
Mais oui.
Il nous a sauvé tant de fois, Bruce. Ah ouais, Armageddon, là, il y a tout dedans. Hein.
Ah,
et là, c'est du premier degré, il y a tout.
Ah, mais oui, oui, oui.
On rappelle, il était long, ce film, il dure bien 2h30, voire 3h. Et pendant 2h, il se passe rien au début.
C'est possible.
Ah ouais, c'est affreux. Et puis après, il se barre sur la fusée.
Après,
et...
c'est des morceaux d'héroïsme
inoubliables. Du sacrifice, la patrie, tout ça, quoi. Encore mieux, Independence Day.
Ah, Independence Day, un grand classique.
Ah ouais.
Et oui.
Avec le fameux discours du président.
Et oui,
t'es obligé de verser une larme, quoi.
D'ailleurs, moi-même, j'ai du mal à retenir un peu mon émotion, mais bon, c'est vrai que là, on est vraiment dans le film, le pur film premier degré de propagande.
Et oui, les sacrifices aussi, le père qui s'en va.
Voilà. Et Verhoeven, il a joué un petit peu avec tout ça, hein,
ouais.
D'une façon assez subtile.
Voilà, et Top Gun aussi. On n'est pas parlé de Top Gun.
Ben oui, mais oui, Top Gun, bien sûr, ça en fait partie.
Top Gun et... notre ami, là, il nous avait fait des films, là, The Patriot, tout ça, là. Mel Gibson. Il n'avait pas fait, là, Tu ne tueras point, je ne sais pas si tu n'avais pas vu ce film.
Si, si, j'ai vu ça.
Il est exceptionnel, ce film, je ne sais pas si tu te rappelles.
Oui, je me rappelle. Mais je ne sais pas si je le mettrais au même niveau que ce qu'on vient d'évoquer.
Tu ne crois pas que c'est du premier degré, ça?
C'est quand même du premier degré, oui.
Je crois que c'est du premier degré.
C'est du pur premier degré.
Peut-être pas patriotique, quoique...
Et bon, et alors bon, Paul Verhoeven, quand même, c'est intéressant de voir un peu qui est le bonhomme.
Ouais, et oui, parce qu'on n'a pas trop parlé de sa filmographie.
Mais non, on a un petit peu évoqué là ce qu'il était. Donc c'est un réalisateur qui est hollandais.
Ouais.
Alors il vient donc de Hollande. Il a fait pas mal de films donc là-bas. C'est comme ça qu'il s'est fait connaître avant de passer à Hollywood. Et alors sur sa période hollandaise, bah il a fait des films qui étaient déjà un peu des films de sale gosse, quoi. C'est-à-dire des films qui étaient, parce que lui, ce qui l'a toujours intéressé, c'était le sexe et la violence.
Ok.
Voilà. Alors il a été assez marqué quand même par la guerre, parce que bah, il a vécu ça quand il était gosse et tout, donc ça l'a un petit peu marqué.
La guerre.
La Seconde Guerre mondiale.
Ah, parce qu'il était... Ah ouais, mais il est aussi vieux que ça.
Mais oui, mais oui.
Ouais.
Et alors, en fait, il a fait un certain nombre de films, Turkish Delight, Spetters, par exemple, qui a lancé la carrière de Rutger Hauer. Je ne sais pas si tu vois qui c'est.
Pas du tout.
Bravo. Alors, tu peux le retrouver donc dans Blade Runner, par exemple.
Ok.
C'est le chef des Nexus.
Oula, là, je ne le vois pas, là. Mais bon, ok, d'accord.
Tu le retrouveras. Et voilà. Et en fait, il a fait aussi un film qui s'appelait Le Quatrième Homme, qui est un film sur la résistance hollandaise. Et il s'est vraiment... Enfin, c'est un film qui a eu beaucoup de succès en Hollande. Et là, il s'est fait un peu remarquer par les Américains, qui l'ont lancé sur un film en 85 qui s'appelait La chair et le sang. Alors, c'était un film hispano-américain que j'ai vu à l'époque, d'ailleurs.
Ouais.
Et qui était, ma foi, pas mal du tout. Et déjà, tous les thèmes étaient là. Hein. C'était, alors, il n'y avait peut-être pas l'ironie, mais effectivement, c'était sexe et violence.
D'accord.
C'était là. Et puis, en 87, il y a Robocop.
Là, c'est la carrière est lancée, là. Hollywood.
Ah, ouais, complètement. En 90, Total Recall. Bon, là aussi, pareil. Là,
du très, très lourd, là.
Grand classique. Basic Instinct, qui a fait un carton à l'époque. Hein.
Ouais, là, par contre, il a changé totalement de style entre Total Recall et Basic Instinct.
Et oui, c'était un thriller, mais bon, ça marchait très fort. Et puis, en 95, il y a Showgirls.
Et là, c'est le drame.
Ah, alors, Showgirls, pour l'émission, j'ai essayé de le regarder. Je vous avouerai, ma conscience professionnelle m'a poussé quand même à essayer de le voir jusqu'au bout.
C'est dur, ça.
Et je n'y suis pas arrivé.
Non, c'est compliqué.
Non, là, vraiment, bon, il y a des belles créatures.
Ouais.
Mais vraiment, non, là, c'était trop difficile. Désolé, j'ai pas pu le regarder jusqu'au bout. Bon, après, en 97, Starship Troopers, on vient d'en parler. Et puis ensuite, ça commence à tourner un peu vinaigre. Mmh. Parce que... quand même, Showgirls et Starship Troopers, ça a été des gros fours, en fait.
Ouais.
Et ça a été un peu le signe de la fin de sa carrière à Hollywood. Ce qui fait qu'il a fait encore Hollow Man, elle, et puis en 2021, Benedetta, mais là, c'est plus du tout une production américaine, c'est une production européenne, quoi.
D'accord.
Alors que j'ai pas vu, hein, je suis désolé, mais là, je pourrais pas vous en dire plus. Mais bon, voilà, donc c'est un personnage quand même assez intéressant, qui a joué vraiment tout au long de sa carrière sur vraiment des codes et tout, et en étant un peu, c'est ce que je disais, un peu un sale gosse. C'est-à-dire vraiment, il a poussé à fond certaines choses, et en étant toujours assez subversif. Alors, c'était Laurent.
C'était Dorian.
Voilà, bon, c'était un peu la première de Popcorn of the Dead. Et ça sera diffusé.
Ouais, donc ça sera diffusé le lundi de 20h à 21h. Et la rediff, donc, sera le mercredi à midi.
Voilà, puis il y aura peut-être d'autres émissions à venir, hein, forcément.
Oui.
Alors,
ça
ne
sera pas de suite, mais enfin, ça, on verra.
Voilà, il y aura peut-être un film de zombies. Par exemple.
Ah,
intéressant. Et puis, on évoquera aussi peut-être un film d'animation de Miyazaki. Alors, c'est un petit peu moins popcorn, c'est un peu moins of the dead, mais c'est quand même très bien. Allez, à la prochaine.
À la prochaine, ciao.
Oh les vaches.
Hello? Hello?